Bonjour à tous et bienvenue autour de cette grande table du vendredi. Quelle souveraineté à l'heure du marché. Il invite à repenser la place des États pour répondre à la crise écologique. Alors que s'ouvre justement la COP25 ce lundi en Espagne. Le monde en question à partir de 12h55 avec le philosophe Dominique Bourg, auteur de Le marché contre l'humanité qui paraît aux presses universitaires de France. Mais d'abord, les foules sentimentales de Gisèle Vienne, la chorégraphe et plasticienne, reprend sa pièce Crowd montée à Nanterre en 2017, en ce moment aux Amandiers, dans le cadre du Festival d'automne. Ce sera les 6 et 7 décembre, le 13 à Martigues, les 31 janvier et 1er février à Toulouse et plein d'autres dates encore à retrouver. L'occasion de parler avec elle de ce qui nous mouge encore aujourd'hui. Gisèle Vienne est à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Ce qui nous meut et ce qui nous bouge. Une dizaine de danseurs réunis pour une rave party entre délire et extase sur une musique électro-technoïde. Bonjour Gisèle Vienne.
Bonjour.
Si la fête semble improvisée dans Crowd, les danseurs, eux, n'improvisent pas du tout en réalité, n'est-ce pas? Chaque mouvement, chaque geste a été pensé.
Oui, alors l'improvisation, c'est une vaste question, parce qu'en fait, on improvise tout le temps. Est-ce que je dis bleu à un danseur, il fait ce qu'il veut, ou est-ce que je lui donne des déplacements et des mouvements très précis? Et même quand les indications sont très précises, il y a improvisation. Donc en fait, il y a quand même toujours improvisation, surtout quand les pièces sont réinventées, réinterprétées pour de vrai chaque soir, même s'il s'agit des mêmes mouvements. Donc la pièce est vivante et la pièce est quand même improvisée, même si elle est très écrite.
Mais en improvisant, il faut penser au groupe. Impossible d'improviser individuellement, sinon on casse la dynamique d'ensemble. Quel est le fil conducteur de cette chorégraphie, de cette pièce, Crowd?
En fait, à l'origine, j'ai travaillé sur le Sacre du Printemps. Donc on a gardé vraiment la dramaturgie du Sacre du Printemps, qui est en réalité une structure qui ressemble à beaucoup de rituels que l'on peut voir en Indonésie, en Éthiopie, à Haïti. Donc en fait, il s'agit là presque d'une structure de rituels que l'on peut retrouver à travers le monde, en fait, d'une structure de rituels archaïques.
Et vous les avez rassemblés pour un rituel des temps modernes quand même, hein, sur cette scène,
oui,
que vous présentez. Les participants à cette fête, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour vous?
Alors, justement, je pense que ça pose la question de la fête et la place essentielle de la fête dans la société qui, enfin, je dirais, on va parler de société occidentale et d'Europe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui est quand même peut-être marginalisée comme un espace de peut-être un peu dénigré où on se lâcherait, alors que voilà, je crois, et c'est très intéressant, je crois que dans les cultures alternatives musicales, on voit bien des recherches beaucoup plus profondes. Je pense qu'on se cherche soi-même, je pense qu'on cherche l'humanité, je pense qu'on cherche une expérience différente de celle du quotidien. Je pense qu'il s'agit là aussi d'espaces de perte de contrôle, d'abandon. Et la question de l'endroit de l'abandon dans la société est essentielle. Donc c'est cet abandon et ce lâcher-prise qui est d'abord recherché à cet endroit-là. Et une recherche, enfin une expérience émotionnelle ou des expériences émotionnelles très exacerbées.
Mais dans l'abandon, on sent aussi une quête de soi et du coup des singularités s'affirmer même dans ce collectif. C'est ça qui est quand même étonnant quand on regarde ces danseurs rassemblés sur cette scène faite de terre. C'est que chacun bouge, se meut finalement très différemment.
Alors c'est vrai que c'est le groupe et j'ai voulu évoquer le groupe. Et en même temps, avoir la possibilité de pouvoir regarder chacun des danseurs et chacun des personnages qu'il va incarner. Donc on a là aussi une galerie de portraits qui colle vraiment à la peau de ce que sont les danseurs, mais aussi qui sont des personnages, des sortes d'archétypes. Donc la pièce permet en fait ce travelling et cette exploration de chacun de ces personnages et aussi de la manière dont on peut considérer le groupe et la manière dont l'individu et le groupe va créer des circulations et émotionnelles particulières.
Vous pensez que c'est la même chose dans la vie que même dans l'anonymat de la foule, dans le collectif de la fête, les identités, les singularités ne disparaissent pas dans la fête ou ailleurs?
Non, je pense qu'il s'agit là de dialogue, de circulation. Il y a un chercheur en psychologie qui a beaucoup influencé le travail qui s'appelle Bernard Rimet, qui travaille sur le partage social des émotions. un livre qu'il a édité au PUF également. Donc on remercie les Presses universitaires de France pour tous ces ouvrages magnifiques. En tout cas, il parle justement de la circulation de l'émotion entre l'individu et le groupe, et la circulation de l'émotion qui se fait aussi par la parole. À travers la circulation de l'émotion, ce qui me semble aussi extrêmement essentiel, c'est de reconsidérer le développement de la pensée, c'est-à-dire de quelle manière en fait gérer la pensée du corps qui va être en accord, en désaccord ou en tension avec la pensée rationnelle va permettre un développement de la pensée, et ce d'un point de vue individuel et également collectif. Et vraiment, voilà, les recherches de Bernard Rimé et de tous ses collaborateurs me semblent là pointer vraiment des questions absolument essentielles.
Alors, c'est pas au PUF, aux Presses universitaires de France, mais c'était aux éditions de la Ménagerie. Aurélien Bélanger avait fait paraître La Fête avec des aquarelles de Thomas Lévy. Écoutez ce qu'il en dit.
C'est un rapport qu'on a, je pense, un texte qui a un peu fait date pour ma génération, qui était un texte de Houellebecq sur La Fête. C'est un rapport qu'on a à La Fête et qui me semble un petit peu erroné. La fête comme expérience anthropologique ratée des modernes. En gros, tous les peuples premiers, tous les anciens savaient faire des super fêtes et nous on en est strictement incapables. Alors que je pense que personne n'est strictement capable de faire la fête parce que ça reste toujours un truc d'exceptionnel de se mettre à danser, de faire une rupture dans le quotidien, de se mettre dans une autre modalité. Et pas plus les peuples primitifs que nous autres modernes, nous avons un rapport spontané et direct à la chose.
Rapport spontané et direct, nous ne l'avons pas. Vous pensez aussi, Gisèle Vienne?
Je pense que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que vraiment dans les cultures alternatives musicales, que ce soit donc la techno, mais aussi le métal, le punk, le rock, le reggae, je pense qu'on trouve là des recherches qui vont bien au-delà de la musique, qui sont effectivement des recherches d'expérience et d'expériences partagées et d'expériences individuelles qui touchent à des questions et qui nous sont essentielles. Donc je pense que c'est pas, je pense qu'on sait, on sait toujours faire la fête, mais il s'agit toujours de réinventer en fait ces espaces-là. Donc je pense qu'ils sont réinventés de manière passionnante. Ce qui est interrogé, c'est effectivement la manière dont ces espaces-là sont considérés d'un point de vue social et politique dans nos cultures.
Est-ce qu'il y a un médium qui vous semble, ou un art, plus approprié que les autres pour saisir la particularité, la complexité de ce moment qu'est la fête aussi? On évoquait là les aquarelles, la peinture, le texte peut aussi raconter la fête ou la danse.
Je pense que la danse et la musique sont peut-être la colonne vertébrale de la fête. Je pense qu'effectivement c'est un espace je pense que la danse et la musique permettent de manière extraordinaire de dialoguer justement avec cette sensibilité, avec ce corps qui est trop souvent mis au second rang de la pensée, en fait.
Qu'est-ce qui se joue là entre vos danseurs? Vous parlez du corps qui revient au centre aussi de la pensée et de l'émotion. Il y a du désir, mais il y a aussi de la violence, une forme de lutte pour vous entre eux.
Alors il y a énormément d'émotions en fait, hein, que ce soit de la sensualité, de l'horreur, de la violence, de la jubilation, de l'extase, de la solitude. Enfin, il y a énormément d'émotions qui sont traversées et voilà, de manière assez, j'ai l'impression d'être dans une sorte de grand huit émotionnel, et c'est un espace où peut-être ces émotions-là sont exprimées d'une manière particulièrement exacerbée. Il y a aussi la place pour la violence, comme vous le disiez, et grâce aussi à Bernard Rimé, il y avait un livre que je trouvais passionnant de Randall Collins sur la violence, une étude sociologique sur la violence qui questionne effectivement ce qu'est vraiment la violence, considérant, moi ce qui m'interroge c'est que la violence est inhérent en fait à l'homme civilisé, ce n'est pas l'expression de l'homme barbare, l'homme civilisé a de la violence, et du coup cette violence peut s'exprimer de manière extrêmement négative, mais pas nécessairement, Et voilà, l'espace de la fête, la danse, l'espace du sport. Enfin, il y a différents espaces où qui permettent d'exprimer cette violence sans mettre en péril la communauté, sans être irrespectueuse à l'égard d'une autre personne. Enfin, je veux dire de manière cadrée. Donc, si on parle de violence très spécifiquement, moi, ma question, c'est de savoir effectivement qu'est-ce qu'on peut inventer pour que cette violence s'exprime de manière émancipatrice et respectueuse. Et pas de manière effectivement irrespectueuse et brutale et mettant en péril la communauté.
Oui, il y a l'idée d'un moment un peu cathartique aussi pour les danseurs et pour le spectateur qui sont associés à ça aussi. On se souvient de la réflexion de Georges Bataille qui vous influence aussi beaucoup par sa pensée sur la fabrique de vos créations, Gisèle Vienne, autour de la question du sacrifice. Le sacrifice, même symbolique, lequel seriez-vous vous prête à faire pour un être ou une cause qui vous serait chère?
Ça, c'est une question très troublante. Si je vais répondre sincèrement, aujourd'hui, je suis prête à aller trop loin pour une personne qui m'est chère. Je suis prête à me sacrifier moi-même et je ne pense pas que ce soit... Je ne pense pas que ce soit bien, en fait. Mais si je réponds sincèrement, c'est ça aujourd'hui. Voilà, mais je pense que la question du sacrifice, effectivement, à travers des formes rituelles, peut se faire de manière symbolique. Je pense que ce qui est passionnant à travers la question du sacrifice, c'est ce que développe Georges Bataille dans La dépense improductive, c'est-à-dire c'est la question de la dépense improductive qui a si peu sa place dans une société capitaliste et qui est, j'irais, une expérience a priori essentielle pour l'humain et pour la communauté. Donc je crois, pour moi, que l'expérience artistique, je crois que le spectacle vivant devrait faire partie justement de ces espaces de dépenses improductives.
On est avec Georges Bataille, alors on y reste avec lui. Georges Bataille, sur les sensations.
Tout le monde sait ce qui rend l'homme le plus heureux, ce sont les sensations les plus intenses. Ce qui me paraît le plus intéressant dans le sens du bonheur ou du ravissement se rapproche davantage de ce à quoi l'on songe lorsqu'il s'agit de quelqu'un comme Sainte Thérèse ou Saint Jean de la Croix que de la première chose à laquelle j'ai assez visiblement fait allusion. L'intensité des sensations est précisément ce qui détruit l'ordre. Et je ne crois pas que cela ait d'autre intérêt. Il est essentiel pour les hommes d'arriver à détruire, en somme, cette servilité à laquelle ils sont tenus du fait qu'ils ont édifié leur monde, le monde humain, monde auquel je tiens, d'où je tiens la vie, mais qui tout de même porte avec lui une sorte de charge, quelque chose d'infiniment pesant, qui se retrouve dans toutes nos angoisses et qui doit être levé d'une certaine façon.
Je veux toujours le traduire un peu, Georges Bataille, Gisèle Vienne. Qu'est-ce que vous entendez dans ce qu'il dit là?
Et je suis désolée, en fait, j'ai été perturbée. Donc je n'ai pas réussi à écouter. J'ai été perturbée par le début de ce qu'il a dit.
Le début où vous pensiez à votre sacrifice encore?
Voilà, vous m'avez perturbée avec cette question. Pardon, je suis désolée.
Les sensations sont ce qui rend l'homme le plus heureux. L'intensité des sensations, c'est ce qui nous permet de sortir de la servilité, hein, dit Georges Bataille, qui replace la sensation, les sensations fortes, les plus intenses, au cœur de nos vies. Hein.
Oui, alors du coup, il parle ici aussi de ce que lui nomme l'érotisme, qui dépasse, je dirais, ce qu'on a l'habitude d'entendre par érotisme. L'érotisme chez Georges Bataille, c'est l'expérience du corps mêlé au monde, effectivement, expérience où, j'irais habituellement, si notre conscience nous dissocie du monde, des expériences sensibles, intenses, comme donne l'exemple de l'expérience poétique, de l'expérience mystique, de l'expérience de la guerre, de l'expérience aussi sexuelle, si elle amène ce type de sensation-là. Effectivement, créer ce sentiment de corps mêlé au monde, qui est une expérience essentielle que l'on recherche, qui est en fait, qui rappellerait presque l'expérience de la mort sans mourir en fait. Oui, on est là dans, comment dire, dans une dissolution de soi ponctuelle qui est pour moi une quête essentielle, c'est-à-dire à la fois dans ma vie et dans ce que je recherche dans l'expérience artistique également.
La musique, tout au long de cette pièce, Crowd, elle nous guide, elle nous transporte. C'est vraiment une transe que vous mettez aussi en scène et que vous chorégraphiez, Gisèle Vienne, dans ce spectacle. On en écoute un extrait. D'un morceau de Manuel Götsching utilisé dans ce spectacle Crowd de vous, Gisèle Vienne, avec vos danseurs, morceau qui date de 84. On vit pendant plus d'une heure à regarder les danseurs dans cette fête, cette rave party des temps modernes sur cette musique électro, techno. Et en accord avec la musique, vous avez décomposé les mouvements slow motion, des mouvements ralentis ou stop motion, découpés et saccadés. Il y a pour vous, derrière tout ça, aussi une envie de nous inviter à ralentir.
Alors, plus que ralentir, en fait, c'est d'être dans le réel, c'est d'être dans le présent, en fait. Puisqu'il y a ce... on oppose, en fait, la rapidité et la lenteur. Moi, j'opposerais plus volontiers être dans le présent, être dans la réalité et ne plus y être dans les expériences qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc c'est plutôt une invitation à être donc dans le réel et cette décomposition du temps, en fait, à la fois cette dilatation, cette précipitation du temps, je crois physiquement aussi pour les spectateurs, également pour les danseurs, permet ou invite à être dans l'instant présent, invite aussi à... je dirais, un regard beaucoup plus précis, ou permet un regard beaucoup plus précis sur tous les détails qui se développent sous nos yeux. Permet aussi, je crois, un espace pour le spectateur, un espace sensible, un espace introspectif. C'est aussi, pour moi, en fait, il y a des superpositions temporelles. C'est-à-dire que la musique, la lumière, le mouvement, la narration sont différentes temporelles, enfin, sont traitées dans des temporalités différentes et s'entrechoquent et se... Et je crois qu'on est là, en fait, vraiment dans une... on est vraiment dans un rapport subjectif, en fait, au temps. J'ose même plus le citer, mais je dirais que c'est vraiment l'expérience qu'on peut avoir dans la recherche, où on a, dans un moment, on peut avoir différentes temporalités. Et effectivement, l'émotion, comment est-ce que l'émotion va altérer la perception du temps. Donc, c'est vraiment toutes ces expériences du temps, en fait, qui sont... que l'on essaie de déployer à travers ces mouvements retouchés.
Vous avez, vous, Gisèle Vienne, une formation de marionnettiste. Est-ce qu'elle vous a inspiré, guidé dans votre manière, et on le voit dans cette pièce Crowd, de décomposer le mouvement, de désarticuler des corps là vivants, mais à la manière d'un pantin ou d'une marionnette à penser le mouvement comme tel?
Oui, alors... il y a plusieurs choses là-dedans. C'est-à-dire que, en tout cas, quand je travaille avec les danseurs, je travaille vraiment avec des humains que je considère comme des humains entiers et vivants et pas du tout des objets à manipuler. Donc, bien au contraire. Il y a la marionnette. Pour moi, ce qui me passionne le plus dans la marionnette, c'est la question de la présence et de l'absence. C'est la question de la représentation du corps. C'est la question de la perception du corps. C'est-à-dire comment est-ce que je perçois une personne, en fait, dans son intégrité, dans son intégralité, et quelles sont les différentes étapes dans ma perception qui font qu'à un moment donné, ce corps ne va être plus qu'image ou plus que fantôme, ou comment est-ce que je peux avoir un rapport incarné ou désincarné. Donc, c'est ces différents types de présence et d'absence qui sont déployés avec, avec les interprètes quand je travaille avec eux, et qui sont effectivement inspirés de la perception qu'on peut avoir de ces corps artificiels. Et effectivement, les mouvements, on va dire, souvent stylisés des marionnettes et des poupées m'ont beaucoup influencé au début de mon travail. C'est aujourd'hui bien plus, on va dire, les techniques du cinéma, c'est-à-dire du montage et la retouche de mouvement qu'on peut retrouver dans le cinéma, qui a une influence là majeure sur le travail développé.
Changement de registre musical avec une actualité, The Temptations, Gonna Keep on Trying Till I Win Your Love.
Like the birds in the trees, my heart sings a rhapsody of love for you. Girl, you won my heart the very first time I laid eyes on you. I know your love belongs to someone else. I got to have you for myself.
For myself.
And keep on trying. Oh, baby, not till I win your love. Girl, I'm gonna keep on trying. Oh, baby, not till I win your love. A falling star. That's what you are. From the heavens above. Girl, no treasure on earth can match your worth. You're a picture of love. I know to you I'm just a lovesick guy, but you're wrong. I love you and I need you by my side.
By my side.
I'm gonna keep on trying. Oh, baby, not till I win your love. Girl, I'm gonna keep on trying. Oh, baby, not till I win your love.
Voilà, hommage au Mototown avec cette nouvelle compilation du Shaolin Soul qui sort en CD et en double vinyle. Ce sera le 6 décembre dans les Bacs. Invité avec nous jusqu'à 12h30, la chorégraphe Gisèle Vienne.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
À l'occasion de sa pièce Crowd qui sera présentée les 6 et 7 décembre au Théâtre Nanterre Les Amandiers, que l'on retrouvera en tournée partout en France l'année prochaine. This is how you will disappear. Autre pièce de vous, Gisèle Vienne, elle sera présentée à la fin mai au Théâtre du Châtelet à Paris. Autre actualité, enfin, la création de Der Teich l'étang que vous avez vous imaginé à partir de ce texte court de jeunesse de l'écrivain suisse Robert Walser au TNB de Rennes. Ça devait se tenir cet automne avec le Festival d'automne et la pièce a été reportée suite au décès cet été de la marionnettiste Kerstin Dalle-Baradel au cœur de votre dispositif avec Adèle Haenel. Les deux femmes devaient incarner respectivement un et deux personnages tout en prêtant leur voix à d'autres et figurées par des poupées. C'est un long compagnonnage entre vous deux. C'était un long compagnonnage.
Oui.
La pièce sera donc reportée à l'automne prochain avec probablement une autre collaboratrice, amie, marionnettiste pour pouvoir poursuivre ce projet. Et Adèle Haenel, que vous retrouverez aussi.
Oui, donc ce sera Ruth Vega Fernandez qui hérite en fait du rôle de Kerstin. Donc c'est voilà, il y a une évidence dans le rapport entre Kerstin et Ruth et un héritage de rôle qui nous permet en fait de retrouver le rapport essentiel à ce travail. Et donc, ce sera Ruth Vega Fernandez et Adèle Haenel qui vont interpréter cette pièce que nous créerons en novembre 2020.
Alors, cette semaine, Adèle Haenel a porté plainte directement après les révélations dans Mediapart contre Christophe Ruggia sur des accusations d'attouchement et de harcèlement. Ce spectacle, L'étang d'Erteil, aurait beaucoup reposé justement aussi sur la puissance de jeu et d'incarnation de ces deux comédiennes. Cette question de la puissance des femmes aujourd'hui, cette prise de parole dans l'espace public à laquelle on assiste, comment vous la recevez, Gisèle Vienne ?
Elle touche des questions essentielles en tant que femme, c'est-à-dire qu'elle touche vraiment le rapport culturel au corps des femmes, c'est-à-dire comment est-ce que nous avons chacune grandi et comment est-ce que nous apprenons à nous exprimer ou à nous taire, et comment est-ce que cette culture est intégrée physiquement, en fait. Évidemment, ça me parle. Et pourquoi est-ce qu'Adèle ne parle que 18 ? Enfin, elle a parlé bien avant, en réalité, mais pourquoi est-ce qu'elle parle aujourd'hui comme ça ? Ça révèle effectivement du temps qu'il faut aussi à permettre à nos corps de parler. Moi, je me rends compte en réalité, pour être très honnête, je me rends compte depuis 2 ans. En fait, si vous voulez, c'est presque une blague, c'est-à-dire que tout mon travail est si physique, mon corps s'exprime de manière si franche et si forte depuis 20 ans, et je reconnais en fait cette expression de mon corps. Je la reconnais, c'est-à-dire je le remercie en fait que depuis 2 ans, si vous voulez. Donc qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre tellement de temps ? Pourquoi est-ce qu'il nous faut tellement de temps pour être en mesure d'écouter nos corps en fait ? Pourquoi ? C'est absurde. Alors effectivement, je pense que les hommes sont tout aussi concernés dans une autre éducation. Mais ce qui est sidérant, c'est effectivement pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à s'écouter ? Aux enfants et aux petites filles à s'écouter ? Et pourquoi est-ce qu'on n'apprend pas à nos corps à s'exprimer, en fait ?
C'est d'autant plus étonnant au cinéma ou dans la danse ou effectivement dans le spectacle vivant, hein, où le rapport au corps est immédiat et très présent dans l'ensemble du travail.
Et c'est important que vous le pointiez, parce que je crois que c'est sidérant aussi dans les formations. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que dans les écoles de danse, on apprend aux danseurs à se soumettre à l'autorité extérieure, alors qu'il faudrait d'abord leur apprendre à s'écouter eux-mêmes et à avoir confiance en eux-mêmes pour pouvoir aller rentrer dans un dialogue, en fait, avec le chorégraphe ou le metteur en scène.
Ça commence par là, parce qu'il y a un milieu de la danse qui n'est pas épargné par ces questions et ces problématiques et ces révélations depuis quelques mois. Ça commencerait par les écoles de danse, par l'enseignement, et ça serait des solutions concrètes.
Ça commence à la naissance, si vous voulez, mais effectivement, ça se prolonge dans toute éducation et dans l'éducation artistique. Et effectivement, ce qu'on retrouvera dans les temps, c'est aussi la question d'espaces qui peuvent être des espaces de non-droit, que sont la famille, que sont la création. Je suis très bien placée pour en parler. C'est-à-dire qu'effectivement, on sait très bien l'immense pouvoir que l'on a dans l'espace de création, et l'intelligence et le respect et l'écoute qu'il faut quand on a du pouvoir pour savoir l'utiliser, je dirais, de manière respectueuse et émancipatrice pour tout le monde.
Voilà, et vous qui êtes chorégraphe et femme, on sent dans votre parole que vous avez aussi recueilli cette ouverture de la parole comme quelque chose qui vous oblige, vous aussi, même en tant que femme, autant que les hommes, en fait, à repenser toutes ces questions-là. Hein.
Bien évidemment, et puis on remercie Adèle d'avoir parlé et de parler encore.
Et on vous remercie à vous, Gisèle Vienne, d'être passée autour de cette grande table. Je rappelle donc que votre pièce Crowd est à voir en ce moment, les 6 et 7 décembre, très prochainement aux Amandiers, avant une tournée en France, de Martigues à Toulouse et Annecy et bien d'autres places encore. Merci d'avoir été avec nous.
Merci.